Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Pobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Djamila Topin.
Oméga, bonsoir. À la une de l'actualité, insécurité au Burkina, la commune rurale de Doumbassa, localité située dans la boucle du Mouroun, dans le viseur des hommes armés non identifiés. Le gouvernement décide de restituer les salaires suspendus ou coupés pour faire de grève en 2020 à plus de 700 travailleurs du secteur de l'éducation qui ont été frappés par la mesure. La Côte d'Ivoire dément la thèse de Bamako et demande aux autorités maliennes de libérer sans délai les 49 militaires arrêtés dimanche dernier au Mali. Mesdames et messieurs, ce sont les principaux titres qui seront développés dans ce journal une fois de plus. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur Radio Méga. Sécurité en ouverture de journal, la commune rurale de Doumbassa, une localité située dans la boucle du Mouroun, dans le viseur des hommes armés non identifiés. Selon plusieurs sources concordantes, les hommes armés non identifiés ont sommé les habitants de Doumbassa ce 12 juillet de quitter la localité dans un bref délai sous peine de subir des représailles. Doumbassa est une commune rurale située dans le département de Yé, dans la province du Nayala, dans la région de la boucle du Mouroun. La suite de ce journal, les salaires suspendus ou coupés pour faire de grève seront restitués aux fonctionnaires qui ont été frappés par la mesure. C'est la décision prise par les ministres de la fonction publique, de la santé et de l'éducation au cours d'une séance de travail le 11 juillet dernier. Ce sont un peu plus de 700 travailleurs du secteur de l'éducation qui sont concernés par la mesure pour Souleymane Badiel, secrétaire général de la FCNTR et chargé du suivi du dossier de suspension des salaires des travailleurs en 2020. Cette décision du gouvernement n'est que justice rendue. Il espère que la réparation sera à la hauteur du préjudice subi par les travailleurs. Ces propos sont recueillis par Adam Scalette Ouedraogo.
Je crois que la première réaction pour nous, c'est la satisfaction que le gouvernement ait reconnu que l'administration a fait du tort à des centaines de travailleurs en les réprimant de façon illégale. Et l'action que le gouvernement, de même que le contenu de leur message, montre clairement que ce qui a été fait vis-à-vis de ces travailleurs-là constitue une répression illégale, comme d'ailleurs nos structures l'ont dénoncé depuis le début, et qui a valu que justement elles entreprennent des actions diverses pour que réparation soit faite en direction de ces travailleurs-là. Nous avons suivi le gouvernement dans la presse. Nous aurions aimé effectivement que le gouvernement attende que nous lui revenons en termes de réponse par rapport à ces dossiers-là pour que éventuellement, s'il veut aller dans une direction, ce soit une direction qui satisfasse véritablement les parties, particulièrement les travailleurs qui ont été réprimés. Je rappelle que le dossier est en justice et il y a un certain nombre de juridictions qui se sont prononcées déjà là-dessus et toutes les juridictions qui ont statué là-dessus ont condamné l'État. Et donc le règlement ne peut pas se faire sans tenir compte de cette dimension-là qui prend en compte effectivement les dommages que tout ceci a causé pour chacun de ces travailleurs.
Rebondissement dans le dossier charbon fin. Hier lundi, les résultats du rapport d'expertise demandé par la mine ont été transmis aux différentes parties au procès, ce qui ouvre ainsi la voie à 90 jours d'observation, lesquelles observations devraient déboucher sur la programmation d'une nouvelle audience. Un rapport avec une terminologie suffisamment technique explique Maître Prosper Farama, avocat constitué partie civile auprès du Renlac.
Que le dossier puisse avancer. Enfin, on pourra, on l'espère bien, dans les délais les meilleurs, avoir une audience concernant ce fameux dossier, un charbon fin. vous aurez imaginé, parce que c'est un rapport déjà, nous imaginons, avec une terminologie suffisamment technique. Nous avons besoin d'un peu de temps avec le RENLAC et certainement avec l'appui de personnes outillées en matière de langage technique de nous expliquer le contenu du rapport. Donc nous n'avons pas encore pu épulser ce rapport. Nous pensions que les choses iraient plus vite que cela, mais nous n'avons pas su qu'est-ce qui a pu justifier ce retard. Mais il semble bien que les difficultés ont été rencontrées sur le terrain par les experts, notamment qui ont dû changer de laboratoire pour continuer leur travail. Peut-être que cela a pu justifier ce long temps, mais nous aussi nous nous posons la question. À ce stade, surtout débattu du délai nécessaire pour que chacun puisse faire ses observations. Nous a été imparti trois mois pour que toutes les parties puissent faire leurs observations, c'est-à-dire une première phase de un mois et demi, 45 jours, pour déposer les premières observations pour tout un chacun, et puis 45 autres jours pour que chacun puisse répondre éventuellement aux observations de l'autre partie. Donc en gros, trois mois ou 90 jours pour que la phase des observations soit bouclée. En ce qui concerne le délai éventuel pour la programmation du dossier, nous n'avons pas discuté de cet aspect à ce stade-là.
Maître Pierre Yanogo, avocat de la mine d'Essakane, espère qu'avec ce rapport, l'opinion sera mieux située sur cette affaire et que la justice sera enfin dite sur ce dossier qui a tant nourri l'actualité.
Alors, comme vous le dites si bien, c'est enfin, le rapport est là. Et nous avons demandé une expertise parce que le tribunal avait dit que le premier rapport qui a été produit par le parquet n'avait pas valeur de rapport d'expertise. Donc pour nous, il faut une expertise transparente pour situer toutes les parties. Et nous sommes satisfaits de ce que ce rapport soit enfin sur la table du tribunal et communiqué aux parties. Maintenant, nous allons prendre connaissance de son contenu, faire nos observations et nous espérons que le peuple sera situé et surtout que la justice sera enfin dite dans ce dossier. Je n'ai aucun élément de doute que c'est un travail qui est bien fait, mais j'attends d'en prendre connaissance pour voir si ça a été fait avec professionnalisme ou pas, à quel résultat ça aboutit, est-ce que c'est contestable ou pas. Mais pour l'instant, je n'ai vraiment aucun élément objectif de douter de la compétence des experts qui ont été désignés. Et je ne sais pas encore quels sont les laboratoires qui ont été retenus pour faire les analyses. Donc tout ça sont des éléments d'appréciation, sont des inconnus pour aujourd'hui. Et nous pensons pouvoir regarder de près et faire nos observations. Tout ce que nous souhaitons, c'est que le travail ait été très bien fait pour que tout le monde soit situé enfin.
Forme Action, le programme de formation accélérée dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, a refermé ses portes ce 11 juillet 2022. Ce sont au total 57 jeunes qui ont bénéficié de formations professionnelles dans 6 corps de métier, dont le montage, la réalisation, le journalisme ou l'écriture de scénarios. La cérémonie de clôture et de remise d'attestation a eu lieu à Ouagadougou. Régis Bouni.
Après 3 mois de formation intense et accélérée dans le domaine de l'audiovisuel, les incubés en fin de formation reçoivent leurs attestations de fin de formation. Pour ces derniers, ce fut une expérience inoubliable. Cynthia Diakité, incubée en journalisme reporter d'images.
Ce fut d'abord une très belle expérience parce que c'était 3 mois de formation intensif. Le matin, on commence à 8h et on finit. Il y a des jours où on finissait complètement à 20h, 21h. Donc ce fut 3 mois condensés de formation. On a beaucoup appris.
Abdelaziz Douma, incubé en écriture de scénario.
Chez nous, chez les réalisateurs scénaristes spécialement, il s'est agi d'apprendre déjà à écrire un scénario, apprendre à connaître qu'est-ce que c'est qu'un film, parce que beaucoup de gens regardent des films, mais ils ne savent pas comment c'est bâti. Donc, comment est-ce qu'on bâtit un film? Voilà, donc on a appris à écrire des scénarios, long métrage comme court métrage, fiction, documentaire, et aussi on est passé à la pratique, on a réalisé quelques courts métrages qui sont en train d'être projetés actuellement dans la salle.
La formation des 57 jeunes a été possible grâce au dynamisme des formateurs. Le défi de former ces jeunes dans 6 corps de métier de l'audiovisuel a été relevé. Souleymane Ouedraogo, coordonnateur du projet Forme Action.
Sur 3 mois, le défi pour nous était de forger, de révéler des talents au niveau de chaque corps de métier. Nous avons trouvé que c'était important pour des jeunes venus de la région. Et c'est vrai, pour tout vous dire, en fonction des profils, beaucoup d'entre eux n'avaient pratiquement pas touché à l'outil. et même l'ordinateur. Et il fallait, dans un premier temps, comme nous sommes dans l'environnement cinéma et audiovisuel, leur faire découvrir des modules qui leur permettent de connaître davantage les enjeux et les défis de ce secteur-là. Et nous avons développé des modules relativement à l'économie du cinéma et de l'audiovisuel, le marketing des produits cinématographiques et audiovisuels, les modules relatifs au langage cinématographique, à l'analyse des films, le management et la gestion des équipes et du personnel, et des exercices en tout cas en matière de technique d'expression écrite et orale. Ça a été un moment assez fort pour permettre aux jeunes de comprendre l'environnement à travers sa dynamique.
Forme Action devra permettre de mettre sur le marché du cinéma, de la télévision et du journalisme un personnel qualifié et prêt à servir.
On parle de toute autre chose dans ce journal. Lancé en novembre 2019 à Ouagadougou, les binômes de premier secours à moto de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers sauvent des vies. De grosses cylindrées, de couleur rouge, avec, comme des ambulances, ces motos ont permis de prendre soin de plus de 418 interventions victimes avant l'arrivée des ambulances et malheureusement, 8 décès ont été enregistrés. Je vous propose de suivre cet extrait du grand reportage de Mariam Soma diffusé sur Omega TV.
Au regard de la densité de la population et des trafics routiers, pour gagner en temps et en efficacité, la BNSP met en place les premiers binômes de secours à moto afin de réduire les délais d'intervention permettant d'être plus opérationnel sur le terrain. Adjudant-chef Augustin Zongo, chef de centre d'incendie et de secours de la première compagnie.
Le concept de binôme de premier secours à moto est né donc de la volonté du commandement de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers et est le fruit de la coopération entre Monaco et la Brigade nationale de sapeurs-pompiers. C'est un concept qui est né pour répondre au plus vite aux nombreuses demandes de secours issues donc de la population. Et le binôme de premier secours à moto a pour mission principale de réduire les délais d'intervention et d'améliorer la prise en charge donc des victimes. À nos jours, le binôme de premier secours à moto totalise 418 interventions avec une prise en charge de 478 victimes, 8 décédés, avec une distance parcourue de 6719 km. Les motos que vous voyez ici sont de deux sortes. Nous avons les motos monoplace et nous avons 3 motos biplace. Au total, la Brigade nationale de sapeurs-pompiers a 8 motos.
Petit matériel indispensable pour conduire les interventions et protéger le personnel. Malgré ces dispositifs, des difficultés se posent, y compris pour les motards, de même que les ambulances. Adjudant-chef Augustin Zongo, chef de centre d'incendie et de secours de la première compagnie.
Il arrive des fois que les populations sont un peu réticentes à donner l'accès aux motards, au binôme de premier secours à moto pour arriver très rapidement sur le lieu de l'intervention. Il faut noter également que certaines personnes pensent que les motos peuvent transporter des victimes. Nous rassurons la population que les binômes de premier secours à moto interviennent au même titre que les autres engins de secours de la Brigade nationale sapeurs-pompiers, tels que les ambulances, les engins d'incendie. Et il est important que la population laisse et facilite le passage donc, de ces engins qui vont contribuer à maintenir en vie l'état donc, des différentes victimes en attendant l'arrivée des ambulances.
À ce jour, la Brigade nationale de sapeurs-pompiers assure la couverture opérationnelle du territoire avec 12 compagnies d'incendie et de secours.
Et suite à la disparition tragique de l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe le vendredi 8 juillet 2022, le premier ministre Albert Ouédraogo s'est rendu ce mardi en fin de matinée à l'ambassade du Japon au Burkina Faso. Il dit être venu présenter ses condoléances et témoigner la solidarité du gouvernement et du peuple burkinabé au peuple de ce pays qui entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec le Burkina Faso. Suivant la déclaration du chef de l'exécutif au terme de la visite.
Le Japon est un partenaire stratégique pour le Burkina. Et l'ancien Premier ministre défunt a été, sous son mandat, un artisan de la dynamisation de cette relation de coopération. Et comme vous voyez aujourd'hui, la coopération japonaise s'illustre dans plusieurs secteurs d'activité, dans plusieurs secteurs économiques et sociaux du Burkina, donc le domaine de l'éducation notamment, la sécurité alimentaire, les infrastructures routières et j'en passe. C'est à ce titre que je suis venu aujourd'hui, au nom du président du FASO, présenter nos sincères condoléances au peuple japonais pour cette douloureuse perte. Vous savez très bien que l'ancien Premier ministre défunt donc, a été un leader très charismatique. Et donc je voudrais, à ce titre, lui rendre un vibrant hommage pour ce qu'il a fait pour le Burkina et ce qu'il a fait aussi pour le Japon. Et je souhaite qu'il repose en paix.
Hors de chez nous, la Côte d'Ivoire a demandé mardi au Mali de libérer sans délai les 49 militaires arrêtés dimanche à l'aéroport international président Modibo Keïta Senou de Bamako. Selon Abidjan, contrairement aux allégations du gouvernement du Mali, ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali dans le cadre des opérations de sécurisation des éléments nationaux de soutien, n'est-ce pas Lamine Traoré?
Selon le gouvernement ivoirien qui a tenu ce mardi un Conseil national de sécurité, la présence de ce détachement des NSE, éléments nationaux de soutien, est conforme au mécanisme de soutien au contingent des pays contributeurs de troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix et est bien connue des autorités maliennes. Abidjan explique qu'en vertu d'une convention signée en juillet 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies et conformément à un contrat de sécurisation et de soutien logistique signé avec la société Sahel Aviation Service, des militaires ivoiriens sont présents à l'aéroport de Bamako. Depuis cette date, 7 contingents se sont déployés périodiquement sur ces sites sans aucune difficulté, peut-on lire dans le communiqué du Conseil national de sécurité. Les autorités ivoiriennes affirment que les militaires sont arrivés le 10 juillet 2022 et une copie de l'ordre de mission du contingent a été transmise aux autorités aéroportuaires maliennes pour attester de la régularité de la mission. Elle précise aussi que le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale ainsi que le chef d'état-major des forces armées maliennes en ont reçu copie. Alors, aucun militaire ivoirien de ce contingent n'était en possession d'armes et de munitions de guerre à sa descente de l'avion. Les armes du contingent, comme autorisées par les Nations Unies pour la protection personnelle et les cas d'autodéfense et selon les procédures en la matière, se trouvaient dans un second avion, indique Abidjan. En conséquence, le Conseil national de sécurité demande aux autorités maliennes de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés, note le communiqué.
Et Lamine Traoré, les militaires arrêtés ont été qualifiés de mercenaires par Bamako.
Oui, le Mali a considéré lundi dans un communiqué les 49 militaires ivoiriens comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le pays affirme que le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Il a aussi décidé de mettre fin, avec effet immédiat, à l'activité de protection de la compagnie aérienne Sahelian Aviation Service par des forces étrangères et exige leur départ immédiat du territoire malien. Enfin, le Mali compte mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes les 49 militaires ivoiriens interpellés.
Toujours dans l'actualité internationale, un casque bleu sénégalais a été tué et 10 autres ont été blessés dans un accident de la route de leur véhicule blindé de transport de troupes, a indiqué lundi le porte-parole de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA. Des précisions avec Adam Skaled Ouedraogo.
L'accident s'est produit près du village de Fiko, à environ 7 km au sud-est de Sévaré, dans la région de Mopti, au centre du Mali, a précisé Olivier Salgado, directeur adjoint de la communication de la mission de l'ONU pour le Mali, via son compte Twitter. Tous les blessés ont été évacués du lieu de l'accident et sont soignés dans un hôpital de la MINUSMA, a-t-il ajouté. Avec ses 13 000 soldats, la MINUSMA, créée en 2013 pour soutenir le processus politique malien, est la mission de maintien de la paix de l'ONU ayant subi le plus de pertes humaines. Le Conseil de sécurité a prolongé le 29 juin dernier sa mission d'un an. Au total, 177 de ces casques bleus sont morts dans des actes hostiles, dont 10 depuis janvier. Le pouvoir militaire à Bamako s'est détourné de la France et de ses partenaires et s'est tourné vers la Russie pour tenter d'endiguer le terrorisme qui a gagné le centre du pays ainsi que le Burkina Faso et le Niger voisin. Ces violences ont fait des milliers de morts civiles et militaires ainsi que des centaines de milliers de déplacés.
C'est ici que prend fin ce journal dont la mise en onde était assurée par Elvige Tiendrebego, à la retransmission web Ibrahim Niaouné. La présentation, je suis Jamila Saint-Aubin. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.